projection privée. Bonjour, notre invité d'aujourd'hui, c'est Mylène de Mongeau. Alors, il y a une actualité, Mylène de Mongeau, mais une actualité depuis beaucoup d'années. On va parler de votre trajectoire très longue. Vous avez commencé dans les années 50, milieu des années 50, et vous êtes toujours vaillante. Et alors, vous avez d'abord publié récemment un livre qui s'appelle « Mes monstres sacrés » aux éditions Flammarion, qui sont des souvenirs et des portraits de tous les gens, enfin pas tous, d'un certain nombre de gens que vous avez rencontrés.
Portraits choisis.
Auparavant, il y avait les mémoires de cinéma, ma vie, une vie et des films, et puis auparavant encore, Tiroir secret, au Pré au Clair, donc c'était au fond une suite de livres qui racontaient un peu vos expériences dans le cinéma, mais il y a une autre actualité, d'abord c'est un film en DVD, Le Cavalier Noir, un film rarissime de 1961, chez Rimini, et puis aussi une bande dessinée, Mylène de Mongeau, d'après, un récit que vous avez fait sur votre mère, qui était ukrainienne, et ça se passait à Kharkov, c'est là qu'elle est née. Et donc, racontez-nous un peu ce livre que vous avez écrit il y a quelques années et dont on vient de faire une bande dessinée.
C'est grâce à ma mère que je me suis mis à l'écriture parce que je l'ai accompagnée quand elle a eu un cancer qui l'a amenée jusqu'au bout. Et je l'ai accompagnée, je ne l'ai pas lâchée. Et comme je sentais évidemment qu'elle allait s'en aller, tout d'un coup, il m'a pris une furieuse envie. Je lui ai dit, je ne sais rien de toi. Alors, tu es ma mère, tu vas t'en aller. Et moi, je vais rester frustrée. Je veux que tu me dises qui est Klavdia Troubnikova. Elle a renaclé, elle n'avait pas tellement envie. Et puis je l'ai pressée dans ses retranchements et petit à petit, elle s'y est mise et elle a commencé à me raconter sa vie. Elle m'a raconté toute sa vie qui est totalement fascinante, évidemment, parce que c'était une femme qui a eu une vie très dure, qui a commencé au moment de la révolution russe, qui a fui en Sibérie avec ses parents, qui a crevé la faim et qui a été très peu à l'école, ce qui l'a désolée parce qu'elle voulait faire des études. Enfin, quoi qu'il en soit, elle m'a fait jurer sur son lit de mort que j'écrirais sa vie. Et je lui ai dit, mais maman, j'ai jamais écrit un livre de ma vie, je vais pas commencer maintenant, c'est ridicule. Elle m'a dit, si, tu as un beau-père très célèbre, donc tu as lu ses livres, donc tu sais comment on écrit.
Il faut dire que ce beau-père, c'est Georges Simenon, puisque vous avez été marié plus de 30 ans
avec Marc Simenon, son fils aîné. Et elle m'a dit, donc évidemment, tu sauras écrire. Je dis, c'est quand même bizarre de dire des choses pareilles. Mais enfin, elle m'a tellement embêtée que j'ai juré, et elle est morte. Et à peu près 2 ans plus tard, j'ai rencontré un éditeur, parce que Marc Simenon, mon mari, était en train d'acheter les droits pour une série. Et l'éditeur, qui était Claude Carrère, m'a dit, vous n'avez pas, vous, quelque chose en préparation, un livre, toutes les actrices écrivent, donc pourquoi pas vous? Je dis, non, moi, j'ai fait rien pour l'instant, mais j'ai juré à ma mère d'écrire sa vie. Et il m'a dit, hop, ça m'intéresse. Bon. J'ai dit, bon, mais oui, mais bon. Et il m'a fait un très gros chèque, un gros chèque. Un chèque, même pour aujourd'hui, c'est encore un gros chèque. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, quand même, il faut que je m'y mette, parce qu'il faut que je respecte et ma promesse et le chèque. Et je me suis mis à écrire, à recommencer. Et puis un jour, je suis allée voir la grande papesse de l'édition à l'époque, qui était Françoise Verny. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, madame, vous ne me connaissez pas, mais voilà, je suis en train d'essayer d'écrire un livre sur ma mère. Je voudrais que vous me critiquiez. Donc, elle m'a dit, venez. Je lui ai amené le manuscrit qu'elle a lu en 2 jours. Et très, très gentiment, elle m'a dit, écoutez, mon petit, quand on se met à écrire, il faut vider ses tripes. Hein. Si vous videz pas vos tripes, ça n'a aucun intérêt. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai tout recommencé. Et j'ai sorti Les Lilas de Kharkov, qui a été un bon succès. Quand je vois en ce moment que les tirages, c'est généralement 400, 500 exemplaires pour des gens très, très, oui, de vente. Moi, avec Les Lilas de Kharkov, je crois que j'en ai fait à l'époque 15 000.
Quelques années plus tard, bande dessinée.
Voilà. Quelques années plus tard, j'ai fait Les Animaux de ma vie, dessiné par mon amie, qui est devenue une amie très chère, qui s'appelle Katel Muller, qui a un talent fou. Et elle est tombée amoureuse des Lilas de Kharkov, et elle m'a dit, on va le faire. Donc, elle a vendu l'idée à Dupuis, qui a accepté, mais après, elle est revenue vers moi en me disant, très bien, l'histoire de ta mère, c'est très bien, mais on veut aussi la tienne. Donc elles se sont mis au boulot avec Claire Bouillac et elles ont écrit ce gros roman qui fait 252 pages, qui est l'histoire de ma mère surtout, et puis l'histoire de la mienne, parce que ce qui les intéressait, c'était la transmission mère-fille, et comment une fille qui était dans le fin fond de l'Ukraine, avec des parents très humbles, a fabriqué, une fille qui est devenue une vedette de cinéma.
Quoi. Voilà, donc, on va essayer avec vous de parcourir cette vie de cinéma très riche. Donc, Le Cavalier Noir, c'est l'actualité DVD, c'est un film de 1961, signé d'un cinéaste qui s'était fait remarquer, enfin à peine, mais qui avait fait un film avec Marilyn Monroe, Troublez-moi ce soir, donc Don't Bother to Knock, qui avait fait des films de science-fiction, enfin un peu de toutes sortes, une sorte de d'homme à tout faire du cinéma britannique, et qui, avec ce film, avait un peu dérouté complètement, puisque la critique n'avait pas tellement compris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Télérama, qui à l'époque était l'hebdomadaire religieux, catholique, qui donnait les codes de l'Église catholique, Télérama avait recommandé ce film, il l'avait même passé en feuilleton, absolument.
En feuilleton
absolument, Télérama. Et donc, c'est une histoire d'amour folle, si j'ose dire, puisque vous êtes là, dans un rapport triangulaire, c'est un western européen, mais qui se passe au Mexique. Il y a donc un prêtre joué par John Mills qui arrive dans ce village et qui est aux mains d'une bande de groupes sataniques, un peu l'équipé sauvage, avec Dirk Bogarde qui est en cuir moulant avec ses sbires et qui en pince pour ce prêtre et d'ailleurs c'est mutuel et finalement ils se retrouvent morts tous les deux enlacés en vous laissant un peu à l'écart. Voilà.
Et la charmante jeune fille est amoureuse et du prêtre et du bandit et elle est troublée par les deux et le prêtre est quand même troublé par elle, mais je crois qu'il est plus troublé par Dirk. Enfin, c'est vraiment une histoire d'amour triangulaire. Vraiment.
Alors, donc, vous étiez déjà connu, bien sûr, on va en reparler. Vous aviez tourné dans le rôle d'Abigail, Les Sorcières de Salem en 56, et puis ensuite Bonjour Tristesse. Enfin, on va parler de ces films très connus. Mais c'était pas non plus votre première expérience en Angleterre. Mais comment ça s'est passé sur ce Cavalier Noir ?
Oh bah très très bien, j'ai eu aucun problème. J'avais commencé à apprendre l'anglais avec Bonjour Tristesse. Quand j'avais rencontré Preminger, j'avais été le voir à reculons, parce que mon agent m'a dit « Preminger veut te voir ». J'ai dit « mais enfin je parle pas anglais, donc c'est ridicule, pourquoi est-ce que je devrais aller voir Otto Preminger ?» Et on m'a dit « mais tu fais pas ta mauvaise tête, ni ta têtue, ni ton âne, on te dit d'aller voir Preminger, tu vas voir Preminger ». Donc je suis allée voir Preminger. Le plus débraillé possible avec un vieux pull informe et puis pas coiffé et puis je suis arrivée tout de go dans son appartement au Georges V en disant je comprends pas monsieur pourquoi vous voulez me voir parce que d'abord je suis une actrice dramatique, je viens de faire Les Sorcières de Salem, apparemment vous voulez me voir pour faire une fille une drôle dans Bonjour Tristesse, vous vous trompez, et puis d'abord je parle pas anglais, j'ai juste appris à l'école. Il m'a dit bon ben c'est pas grave. Donc à ce moment-là je partais tourner une manche et la belle à Nice, le film d'Henri Verneuil, et il m'a dit « je vous envoie quelqu'un ». Et il m'a envoyé un type extraordinaire qui m'a appris l'anglais en un mois. Au bout d'un mois, je parlais anglais suffisamment pour faire « Bonjour Tristesse ». Et de là, je suis partie en Angleterre faire d'autres films.
Oui, mais alors, je crois, au départ, vous étiez déçu parce que vous attendiez à voir Richard Burton. J'ai appris aussi dans une correspondance de Dirk Bogarde qu'à un certain moment, ça devait être Paul Newman, mais ça, vous n'étiez pas au courant. Et puis, vous vous retrouvez avec John Mills, qui a 25 ans de plus que vous, et qui ne vous paraît pas le prêtre le plus séduisant du monde.
J'étais, comment peut-on dire, extrêmement dépité. Et à l'époque, je connaissais pas encore le travail sur l'acteur de Mikhaïl Tchekhov que j'ai utilisé plus tard. J'avais pas encore appris à plaquer sur un acteur la personne que vous aimez le plus au monde. Et ça marche très bien. Non, là, je me suis retrouvée et je me dis, mais comment je vais faire? Il est vieux. Vieux. Mais c'est vrai que quand vous avez 20 ans, un type de 50, c'est un vieillard. Après, c'est plus du tout la même chose, mais à ce moment-là, j'étais très, très, très mécontente. Voilà, j'ai boudé, j'ai tempêté, parce que j'ai même fait un scandale, parce que j'avais signé un contrat. Et dans ce contrat, il y avait Charlton Heston, et j'ai failli dire, mais moi, je m'en vais. Ouais. Alors, on m'a dit, mais non, tu te rends pas compte. Voilà, j'ai cédé, nous avons fait le film, que certains qualifient film d'opérette. Et c'est vrai que c'est très bizarre, c'est inclassable. Mais c'est vrai que ça a un côté opérette. C'est aussi bizarre que la cour de Monaco.
Et puis il faut dire aussi qu'il y a un Dirk Bogarde avant Joseph Losey, c'est 2 ans avant The Servant, et c'est un Bogarde justement très sexuel, mais avec ses pantalons moulants tout en cuir noir. Enfin,
mais il est très très beau dans le film.
Il est beau, il est satanique, très, très il est satanique.
Tout Alors,
mais en même temps, vous
et
avez
pervers.
et très pervers. Ouais. Alors, vous découvrez donc avec ce Cavalier Noir, peut-être pas parce que vous aviez tourné auparavant avec Ralph Thomas, Entrée de service. Donc, vous avez déjà tourné en Angleterre, mais je pense que tout de même, il devait y avoir pour vous un certain choc par rapport à la façon dont les Anglo-Saxons, les metteurs en scène Anglo-Saxons dirigent et les Français. C'est-à-dire que je crois que chez Roy Ward Baker, c'est l'absence d'indication.
Ah, absolument. J'en ai parlé plus tard beaucoup avec Juliette Gréco, qui venait de tourner Les Racines du Ciel avec John Huston, qui avait tourné. Et elle me disait qu'elle avait été terrifiée parce que Huston l'a regardée. Et quand on voit la tête de Huston, il est quand même très impressionnant. Et il ne disait pas un mot. Il disait moteur. Et encore, c'est même pas lui qui dit moteur. C'est le premier assistant. Et après, cut. Et entre les deux, rien. Alors, l'acteur, qui n'est pas en plus un grand professionnel, mort de trouille, se demande est-ce que j'étais bien, est-ce que j'étais pas bien, et il ne le saura jamais. Et c'est vrai que moi j'embêtais Roy Baker, je lui demandais, mais enfin, c'est bien, tu trouves ça bien, t'es content, etc. Mais oui, bien sûr. Et alors un jour je lui ai demandé, mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne dites rien comme ça? Et il m'a dit, mais enfin... Enfin, mon petit, parce qu'à l'époque, on m'appelait encore mon petit, hein, c'est normal. Mais on t'a vu, on a vu ce que tu faisais, on t'a choisi pour faire le film. Donc, c'est une chose acquise. Maintenant, le travail d'acteur, c'est toi. C'est pas à moi. Moi, je dis oui, je dis coupe, je dis on l'a refait, mais ton travail, c'est le tien. Et c'était une bonne leçon, c'était une bonne claque. Parce que c'est vrai qu'en France, à l'époque, surtout, allez, je me souviens, c'était très, très connu, par exemple, que j'avais fait des essais aussi, tiens, ça me revient, tout d'un coup. J'ai fait des essais avec Jacques Becker, qui me voulait pour Montparnasse 19. Et d'ailleurs, comme une idiote, c'est moi qui ai refusé le film en lui disant « Je ne peux pas jouer Jeanne et Buterne. Quand on voit les peintures de Modigliani, ce sont des visages longs comme des jours sans pain. Et regardez comment je suis, Jacques, j'ai une bouille toute ronde, j'ai l'air d'un bébé. C'est ridicule, je ne peux pas faire le film. »
C'est finalement Anouk Aimée, il faut dire, qui a joué Jeanne et Buterne.
Mais donc, je fais des essais avec lui, et c'était étonnant les essais. Il me disait « Voilà, vous êtes assise, et vous comptez 5. » À 5, vous tournez le regard et vous regardez l'horloge qui est là. Et là, vous comptez 6. Et vous revenez et vous dites une phrase, je ne sais plus laquelle, etc. Et tout était comme ça, décortiqué au millimètre. Et il paraît qu'Autant Lara était comme ça aussi. Et il paraît que Duvivier n'était pas loin de ça. C'est des gens qui indiquent tout, qui disent tout sur le plateau. L'acteur est pris dans un carcan du metteur en scène qui projette sur lui exactement ce qu'il veut parce qu'il sait son montage, il sait comment il va faire, il sait si c'est ça. Il n'y a pas une grande liberté. C'est vrai que ça a fait des progrès aujourd'hui. On est plus libre. Aujourd'hui, on a même le droit d'improviser aujourd'hui.
Alors, d'ailleurs, Montparnasse 19, qui évidemment avec Gérard Philippe et Anouk Aimée, ça tombait très bien pour vous de vous faire un essai pour ce film, puisque vous étiez, alors on découvre ça dans un de vos livres de mémoire, que vous étiez, comme beaucoup de femmes de l'époque, folle de Gérard Philippe.
Moi,
c'était les années 50.
Oui, moi ça allait très loin, parce que moi je l'ai coursé partout. Je le coursais à Chaillot, je le coursais dans les couloirs, je le coursais dans les coulisses, j'ai été jusqu'à 14 ans emmerder mes parents pour qu'ils me laissent aller à Avignon. J'ai d'ailleurs vu une représentation de Lorenzaccio, mais tellement belle que les gens étaient debout, que tout le monde était en larmes, et lui aussi, enfin une des plus belles représentations de théâtre que j'ai vues de ma vie. Donc de 13 ans à 16 ans et demi, j'ai été folle de ce type-là, mais au point de rencontrer sa mère, de devenir copine avec sa mère, de rencontrer son frère, et je louchais, j'avais pas encore été opérée. Et quand j'ai fait les essais avec lui... Eh bien, j'étais tombée amoureuse de celui qui allait devenir mon premier mari, Henri Coste. Et il était là, il me prenait dans ses bras. Et je me disais, nom d'un chien, si seulement c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, je ne suis plus amoureuse de lui. Il est là en train de me regarder. Et il m'a dit, mais c'est drôle. J'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. J'ai dit, ah bon? Voilà, c'est un de mes grands regrets. Oui, j'ai dansé avec lui. La première photo dans Paris Match où on met Gérard Philippe danse avec une inconnue. Et j'étais parmi toutes les jeunes filles affolées qui étaient là autour de lui. C'était à Suresnes pour une représentation du CID. Et le photographe de Paris Match est venu me prendre par la main pour me faire danser avec Gérard Philippe qui m'a dit, vous savez, je ne sais pas danser, je vais vous écraser les pieds. Et j'ai fait, oh, c'est pas grave. Et j'ai pas osé bouger, j'étais tétanisée complètement. Donc, d'autant les regrets après quand on a fait ces essais.
Alors, je voudrais que vous me parliez tout de même d'un metteur en scène un peu oublié aujourd'hui, Marc Allégret. Parce que ce qui est frappant quand on voit sa filmographie, c'est à quel point il était attiré par les jeunes actrices et combien de jeunes actrices futures vedettes ont commencé avec Marc Allégret. Vous n'avez pas tout à fait commencé, mais vous avez joué dans Futures Vedettes où il y avait déjà Brigitte Bardot.
Absolument.
Et puis Jean Marais, qui n'est pas tout à fait une jeune fille. Et puis également Sois belle et tais-toi. Vous avez tourné plus tard avec également Marc Allégret. Alors, c'était quel genre de personne? Bon, c'est évidemment le frère de Yves Allégret, qui lui est resté davantage à la postérité. C'était aussi l'ami d'André Gide. Il avait tourné Le Voyage au Congo avec Gide en Afrique. Mais c'était quel genre de metteur en scène? Parce que sa prédilection, il a vraiment commencé la carrière de beaucoup de jeunes comédiennes.
Oui, il aimait beaucoup, beaucoup les jeunes filles. Et d'ailleurs, chez lui, il y en avait toujours tout un troupeau quand j'allais le voir. Et il faisait des photos, il les photographiait beaucoup. Il y avait, je me souviens, Odile Rodin, qui s'appelait Odile Greuze à l'époque, et qui nous a dit un jour fièrement qu'elle changeait de nom pour faire du cinéma parce que Greuze, c'était trop connu, alors qu'elle avait décidé, elle s'appellerait Odile Rodin. Ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque. Et Marc, moi, je l'aimais bien. Il était très, très courtois, très bien élevé, très charmant, beaucoup d'allure. Et je sais pas pourquoi je me suis persuadée que Vadim était son fils. Parce qu'ils avaient des rapports tellement étroits et je trouvais qu'ils se ressemblaient. Donc j'étais toujours en train d'essayer de savoir, mais Vadim, est-ce qu'il serait pas le fils caché de Marc Allégret? Apparemment, non. Mais c'est là où ma carrière a bifurqué, voyez-vous, moi c'est un film que les gens aiment bien, que les gens trouvent très charmant et tout ça, mais moi je suis très 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 mécontente de ce film parce que ça n'est pas vers ça que j'aurais dû bifurquer après Bonjour Tristesse. J'avais quand même des gens qui voulaient travailler avec moi, je l'ai appris plus tard par exemple, comme Louise Buñuel qui voulait faire La Femme et le Pantin avec moi. J'avais d'autres ambitions, mais... Et puis en plus, ce qu'il y avait dans Kikinan avec Sois belle et tais-toi, c'est que c'était un scénario écrit pour Bardot, qu'elle a pas fait, écrit par Vadim pour elle. Donc je rentrais dans les chaussettes de Brigitte. C'était pas bien. Moi j'étais pas d'accord, mais à ce moment-là, et mon agent et mon mari de l'époque m'ont dit, mais tu ne sais pas, tu es petite, tu n'as pas d'expérience, écoute les gens qui savent, etc. Et en fait, ces gens adorables, ils voulaient que je sois commerciale, quoi. Ils voulaient pas du tout que j'aille, que je bifurque dans une catégorie qui peut-être leur aurait rapporté moins d'argent.
Et d'ailleurs, c'est pour ça un peu que vous êtes passé à côté de la nouvelle vague. Un peu comme Delon, de la même façon. Delon n'a pas été du tout utilisé par la nouvelle vague et vous n'avez... Alors Belmondo, oui, mais vous n'avez pas rencontré Truffaut
ou Chabrol.
Mais
moi, c'est entièrement ma faute. Entièrement, parce qu'à l'époque, j'étais très, très connue. Donc, ça veut dire qu'on me demandait mon avis tout le temps. Et j'étais folle du cinéma américain. Moi, mes dieux, c'était George Stevens, c'était Nicolas Ray, c'était Michael Curtis, c'était tous les grands films des années 40, 50. J'avais cette passion du cinéma, là. Et quand tout d'un coup, je vois arriver un petit film en noir et blanc, bâclé, mal photographié, etc., j'étais horrifiée. Donc on m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, ben, je pense que c'est nul. Alors, évidemment, quand une star de l'époque dit, je pense que c'est nul, vous pensez bien qu'ils vont pas aller me chercher. Celle-là, il faut vite la mettre au rancard. C'est vrai que j'aimais autant Lara, j'aimais Duvivier, j'aimais Clouseau.
Il y avait de belles choses dans la nouvelle vague.
Je pouvais pas aimer le cinéma, mais après, j'ai compris cette liberté tout d'un coup qui arrivait justement en fait par le manque d'argent et par le fait de se débrouiller et par la liberté de l'acteur et par ce qu'on pouvait faire. Mais à l'époque, j'étais trop imprégnée de ce qui se faisait avant. J'avais pas compris. J'ai compris trop tard. Plus tard, trop tard. Pas grave.
Alors, à 20 ans, autour de 20 ans, je ne sais pas exactement, peu importe, vous avez votre premier vrai rôle, donc dans Les Sorcières de Salem, dans le rôle d'Abigail. Et alors, ce qui est formidable dans vos livres, aussi bien Les Tiroirs Secrets que Mémoire de Cinéma, que Mes Monstres Sacrés, c'est que vous ne mâchez pas vos mots. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... parce que souvent dans les mémoires, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, etc. Et vous dites les choses, et votre expérience sur Les Sorcières de Salem, avec le couple Montand-Signoret, n'a pas été tout de même une joie pure.
Non, ça a été très douloureux, simplement parce qu'ils ne se sont pas rendus compte, tous les deux étaient des stars immenses, et ils ne se sont pas rendus compte que le fait de devoir arriver sur le marché, si l'on peut dire comme ça, des jeunes filles fraîches et charmantes, c'est-à-dire Pascal Petit et moi, et les autres petites sorcières, les journaux, ça leur plaisait. Et donc, il y avait dans les magazines beaucoup de photos de nous. Ce qui a mis le feu aux poudres un jour, ça a été terrifiant, parce que c'était terrifiant de mauvaise foi, c'était vraiment dégueulasse. On était tous en train de déjeuner, et à un moment donné, on voit Montand arriver en tenant un journal comme ça, en disant « Mais c'est une honte, c'est une honte !» Alors tout le monde regarde qu'est-ce que c'était que cette honte. C'était France Dimanche. Et il y avait là une pleine page comme ça où on racontait que Françoise Lugagne, la femme de Raymond Rouleau, avait découvert une petite shampouineuse exquise qui s'appelait Pascal Petit et qui allait jouer dans Les Sorcières de Salem. Et là, ce fumier de Montand s'écrie « Mais la star, c'est Mylène! C'est dégoûtant de faire ça, cette pauvre petite, etc. » En fait, ils étaient furieux parce qu'on parlait pas d'eux. Je trouvais ça horrible. Voilà. C'était des gens, et c'est d'autant plus triste des gens comme ça, que ce sont des gens avec tellement de talent. Montand était extraordinaire sur scène. C'est un chanteur formidable. Elle, c'est une actrice exceptionnelle.
Et donc, le Signoret qui vous dit à la fin, tu pourras toujours faire des ménages.
Ouais, mon petit, c'est pire. Dans une salle pleine, elle au premier rang, moi au dernier. Tu pourras toujours faire des ménages, mon petit. Je peux vous dire que les larmes, ça se coule comme ça, ça tombe. C'était terrible. Je suis rentrée à la maison, je ne suis pas allée à la première. Le soir de la première du film, je suis allée voir Géant. Et il y avait un photographe que probablement mon mari avait dû convoquer, je ne sais pas, donc qui a fait une photo de moi sortant du cinéma de Géant, de George Stevens, parce que j'étais folle de James Dean. Et le lendemain, dans François, il y avait une star aînée, gna 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 gna, et puis de l'autre côté, mais elle était en train de regarder Géant. Ouais.
D'ailleurs, Géant fait partie de vos monstres sacrés. Enfin, c'est oui. Pas. Vous n'avez jamais tourné avec lui, mais.
Non, mais je l'ai rencontré.
Une Place au Soleil.
Je lui ai sauté au cou quand il était à Cannes, cet homme-là, sans penser que peut-être il se disait que c'était une petite jeune fille qui voulait le séduire pour partir à Hollywood. Mais comme j'étais pétrie d'admiration pour lui, il était dans le hall du Carlton et je lui ai carrément sauté au cou en lui disant Vous êtes mon Dieu, vous êtes mon Dieu. Et il m'a envoyé un script de Géant. Et c'est là où j'ai vu ce truc formidable que j'ai plus revu après. Je lui ai demandé des explications quand il est venu à Paris. Le script de Géant, il n'y a aucune indication de plan. Ce sont des scènes écrites et il n'y a rien. J'ai dit, mais comment? Il n'y a pas de numéro comme nous avons, nous. On sait que là, c'est gros plan, là, c'est plan moyen, là, c'est... Non, il me dit non, 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 non. Je ne veux pas que les acteurs viennent me trouver le soir en me disant, dis donc, là, au numéro 77, il y avait mon gros plan, tu ne l'as pas tourné. Donc, il n'y avait aucune indication, ni aucune indication de jeu, ni rien. C'était... Et je trouve ça formidable. Parce que je déteste les indications de jeu. On dit là, elle est attristée, affligée, rit. Là, elle rit. Là, non, et le boulot de l'acteur, alors, ça m'énerve. Ça.
Alors, ce qui est très frappant en lisant justement ces souvenirs, c'est la façon dont il y a une distorsion avec le temps. C'est-à-dire que des gens comme Stevens, comme Zinman, comme Wyler, dans les années 50, c'était vraiment les rois du Festival de Cannes, c'était les rois de la critique, et aujourd'hui, ils sont presque oubliés. C'est vraiment très saisissant.
C'est le manque de culture de l'époque, mon cher ami. Il y a un manque de culture qui me navre, qui me...
Non, parce qu'il y en a d'autres dont on parle tout le temps. Par exemple, Nicolas Ray, on en parle. Mais Stevens est tombé dans une sorte d'oubli. C'est un très, très grand cinéaste, auteur de comédies merveilleuses dans les années 40.
On le trouve trop académique. Oui. Parce que c'était quelqu'un qui se couvrait, il m'avait raconté, quand il faisait une scène, ça prenait une journée, parce qu'il la faisait en plan général, en plan moyen, en gros plan sur l'un, gros plan sur l'autre, gros plan sur l'autre, la scène prenait une journée. Plus personne ne tourne comme ça. Donc il fait partie des gens considérés comme académiques, comme Autant Lara aussi était considéré comme académique. Et le cinéma a changé, d'accord. Mais même si le cinéma a changé, on peut aller à la cinémathèque et découvrir l'extraordinaire travail de ces gens-là qui savaient magnifier les acteurs. Le baiser d'une place au soleil, le baiser entre Elizabeth Taylor et Clift, c'est une des plus belles choses que j'ai vues au cinéma. Et il m'a expliqué comment il avait fait. Il m'avait expliqué que pour donner les mois qu'il voulait qu'il passe, qu'il devait passer sur le visage d'Elizabeth Taylor, il avait bouger un tout petit peu la caméra et fait trembler un tout petit peu l'image pour avoir cette notion. Enfin, c'est des gens fantastiques. Il m'avait expliqué que dans la fameuse scène avec Shelley Winters et Clift, quand il va se débarrasser d'elle et qu'elle va tomber dans l'eau, le lac, il voulait que le lac soit noir. Et donc, il n'y avait qu'une demi-heure dans la journée où le lac était noir. Donc, ils ont tourné cette séquence pendant une semaine parce qu'on ne pouvait la tourner qu'au moment où il ramait dans un lac. C'était des gens fantastiques. Il y avait l'argent aussi. Il n'y a plus l'argent aujourd'hui pour faire ça.
Alors, pour en revenir aux Sorcières de Salem, vous avez eu un avant-goût du metteur en scène trépignant, hurlant, en rage, etc., avec Raymond Rouleau qui allait vous préparer idéalement pour votre rencontre avec Otto Preminger, ce Viennois qui était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que il y avait le Preminger, enfin vous avez en jugé plus que moi, mais il y avait moi j'ai connu que le Preminger de la vie, qui était un homme absolument délicieux et charmant, et puis cet autocrate, il s'appelait Otto d'ailleurs, c'était un autocrate qui tyrannisait ses comédiens, piétinait, hurlait, éructait. Non, c'était ça sur Bonjour Tristesse.
Tout à fait. On avait des projections à peu près une fois tous les 10 jours, parce qu'il fallait que les rushs partent à Londres, puisque c'était du Technicolor, et que ça revienne. Donc on avait une projection au retour. Et ils sortaient de projection en agonisant tout le monde. Mais le pauvre Péridal, qui était le chef de la photo, il s'en prenait plein la gueule. Les acteurs, David Niven, Deborah Kerr, la pauvre Jean, évidemment, plus que n'importe qui, parce qu'elle était sous contrat avec lui. Tout le monde en prenait sur la gueule. Donc, mais vous êtes nuls, mais qu'est-ce que je fais avec des ânes comme vous? Et un jour, parce que je m'entendais bien avec lui, parce que j'avais pas peur de lui. Et je lui disais toujours, mais vous êtes trop rouge, Otto, vous allez avoir une crise cardiaque, vous devriez faire attention. Donc, ça le désamorçait et rigolait. Et un jour, je lui dis, mais enfin, pourquoi vous êtes comme ça avec les gens? C'est très déstabilisant. Il me dit, parce que je veux pas qu'ils sortent contents, je veux qu'ils travaillent. Non, c'était un drôle de personnage. C'est vrai que la pauvre Jean Seberg, il l'a terrorisée, il l'a fracassée, il a été dégueulasse avec elle. Je me souviens d'un jour où elle allait avoir ses règles. Donc, elle avait donné au premier assistant des dates en disant, voilà, de telle date à telle date, ça serait bien que j'aille pas dans l'eau. Il a juste choisi ce jour-là pour faire la séquence avec Joseph Freyhorn. Donc, elle s'est évanouie 3 fois. Enfin, moi, je lui dis, mais vous êtes vraiment dégueulasse.
C'était un très grand cinéaste, c'est d'ailleurs Bonjour Tristesse qui a été discuté à sa sortie aujourd'hui.
Il est bien maintenant, le film.
Aujourd'hui,
c'est
un classique, moi. Cette utilisation du noir et blanc pour évoquer le présent, ce qui est complètement paradoxal, et la couleur, c'est pour le passé. Ouais. C'était assez magistral.
Je trouve qu'il a vraiment vieilli comme un bon vin. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait une projection, je ne sais plus où. Et je l'ai revu avec grand plaisir et je me suis dit, mais maintenant, je préfère le film que le livre.
Vous êtes sur France Culture, projection privée, Michel Simon.
Alors, Mylène de Bonjou, c'est aussi ces années 50, début des années 60, vous commencez à avoir des rôles de plus en plus importants. Ce qui est frappant aussi, c'est le côté européen. On ne parlait pas d'Europe à l'époque, il y avait très peu d'Europe. Aujourd'hui, on ne parle que de l'Europe, mais finalement, le cinéma était beaucoup plus européen à cette époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous alliez en Angleterre tourner, vous alliez en Italie tourner, vous faites des rencontres pour moi qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est des cinéastes que j'admire. Vous tournez avec Bolognini, Les Garçons, La Notte Brava, vous tournez avec Dino Risi, L'Inassouvi, Un amore à Roma. Vous tournez même en Italie un péplum.
Trois.
Mais d'abord la bataille de Marathon.
Oui.
La bataille de Marathon de Jacques Tourneur, mais avec aussi Mario Bava, parce que je crois que Mario Bava est arrivé sur le film.
Il a fait la seconde équipe.
Voilà. Alors cette expérience italienne, ces comédies d'abord, Dino Risi.
Moi, je me suis régalée tout du long parce que d'abord, j'étais très bien reçue. J'avais des appartements merveilleux, des maisons merveilleuses. L'art de vivre, pour moi, est quand même quelque chose de... C'est très agréable de vivre dans un environnement. Je me souviens, j'avais un appartement en place Espagne. En plus, c'est un des endroits les plus beaux de Rome. Et j'avais une terrasse comme ça qui dominait. C'était somptueux. Et je descendais avec Bolognini, m'emmenait dans des petits restaurants extraordinaires où on mangeait des risottos à la truffe blanche. Comme ça, j'en ai encore le goût dans la bouche tellement c'était bon. Je n'ai jamais retrouvé ça. Et en plus, c'était des gens merveilleux, cultivés, charmants, qui vous photographiaient bien. J'ai jamais été aussi belle que dans Les Garçons. Quand je revois le film, bon, j'étais amoureuse de Terzieff, ça aide. Parce que quand on est amoureux, on est beau. Mais n'empêche que j'étais merveilleusement photographiée. Et c'est magnifique.
Et Dino Risi ?
Dino Risi, il était charmant, mais il était très malheureux sur le film, et moi aussi, parce que j'avais mon mari... Le premier, le brave Henri Coste, qui s'était pris pour Paula Strasberg, qui était la coach de Marilyn Monroe. Donc, il s'est transformé en coach. Il était là, comme un ange noir derrière moi, me dire tout le temps, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu n'étais pas bien, etc. Donc, Dino Risi me disait, écoute, Mylène, je t'en supplie, demande-lui de pas venir. Donc, je disais à Coste, écoute, sois gentil, ne viens pas. Oui, mais si je ne viens pas, tu vas être mauvaise, tu vas faire n'importe quoi. Donc, j'ai été ballottée entre ces deux personnes, mais quand je revois le film, moi, je souffre quand je vois le film, parce que je sais ce que j'en aurais fait si j'avais été libre, et je suis bridée dans le film. Bon, ça passe, parce que le personnage, il est là. Mais quand même, j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. J'étais très frustrée, là.
Alors, vous laissez entendre un petit peu, sans le dire expressément, qu'il y avait aussi des films qui étaient un peu alimentaire, mais pas seulement alimentaire pour vous, mais aussi alimentaire pour le metteur en scène. Par exemple,
ah oui.
On admire beaucoup Jacques Tourneur, c'est un immense cinéaste, c'est pas seulement le fils d'un grand cinéaste Maurice Tourneur, mais c'est en lui-même, il a fait des films d'épouvante absolument parmi les classiques du cinéma d'épouvante, et vous avez l'impression que la bataille de Marathon, c'était pas vraiment pour lui le numéro un de ses préoccupations.
C'est sûr qu'il est venu à Rome pour prendre un maximum de pognon et pouvoir jouer au golf tranquille dans une ville ravissante, où on va bien dîner le soir, où on mange bien, où les Italiens sont charmants. C'était le début de la Dolce Vita, c'était les paparazzi partout. Et moi, je suis allée à Rome parce que, franchement, quand on m'a proposé la bataille de Marathon, j'ai ricané en disant « Mais non, je ne vais pas faire un truc comme ça, vous êtes malade, etc. » Et je me suis dit « Bon, ben, pour m'en débarrasser, je vais tripler mon prix. » Donc, j'ai triplé mon prix et ils ont accepté. Et là, eh ben, ma foi, je suis partie à Rome. Toute contente de prendre mon fric. C'était très, très bien. Ils savaient bien que les gens n'avaient pas forcément envie d'aller là-bas faire un petit peu... le péplum, c'était un peu déchoir quand même. C'était pas...
Ils ont été réhabilités depuis.
Oui,
il y a maintenant des fous du péplum.
Hein, c'est bizarre. Hein.
Oui,
mais à l'époque, c'était... Quand on disait à un journaliste « Je vais faire un péplum en Italie », c'est... La pauvre. Vous avez plus de travail à Paris, vous avez du mal à travailler en ce moment.
Il y a eu deux autres péplums, donc il y a eu l'or des Césars,
oui.
Et l'enlèvement
pareil,
des Sabines.
André de Top, pareil, il est venu là pour prendre ses sous et jouer au golf. C'était un homme délicieux, charmant, j'ai fait des dîners avec lui, formidable. Et l'enlèvement des Sabines, c'était notre cher Richard Potier qui avait fait Caroline Chéri, donc il aimait beaucoup les femmes. Et puis j'avais fait venir, il y a Jean Marais qui apparaît dans le film En Dieu, je ne sais plus quoi. Et il y a mon cher Francis Blanche, c'est là où je suis devenue super pote avec Francis Blanche, qui est resté mon meilleur ami jusqu'à sa fin tellement triste. C'était un homme merveilleux.
Il y avait aussi Roger Moore, le futur James Bond.
Oui, il y avait Roger Moore qui était charmant, délicieux, qui venait de faire Ivan Noé, qui n'était pas encore très connu, qui était très charmant, qui est tombé sur ce film, tombé fou amoureux d'une jeune femme qui faisait un petit rôle dans le film, qui s'appelait Luisa Mattioli. Et il a quitté la femme avec qui il vivait à l'époque, qui était son agent. En plus, ça a fait des grands drames pour partir avec cette jeune femme.
Alors, il y a aussi, au début des années 60, une rencontre... avec un cinéaste que moi, j'ai, enfin pas seulement moi, que beaucoup de gens estiment beaucoup, qui est Michel Deville. Vous avez tourné deux films avec lui, à cause d'une femme et l'appartement des filles.
Je voulais changer d'image et il m'a apporté avec ce scénario de à cause d'une femme exactement la possibilité de proposer quelque chose d'autre au public, c'est-à-dire sortir de la ravissante, délicieuse glamour qui fait tomber tout le monde à genoux. Et je voulais faire ce petit personnage fragile, sentimental et tendre et émouvant. J'ai adoré jouer Lisette. Ça a été un grand, grand plaisir. Et travailler avec Michel Deville a été aussi un très grand plaisir parce que c'est un homme fin, délicat, poétique, cultivé.
Il était très précis aussi. Alors lui, il donnait des indications très précises de rythme, de durée, etc.
Ah oui. Très précis, très pointilleux. Il savait exactement ce qu'il voulait, comment il le voulait. Et puis, il ne fallait pas déborder du cadre du personnage qu'il avait, des personnages qu'il avait construits. Il ne nous permettait pas de faire autre chose que ce qui avait été pensé et écrit par lui. Et comme il y avait lui et il l'accompagnait sur le plateau, à deux, on ne pouvait pas bouger. On était encadrés, si on peut dire.
Ce qui est curieux aussi, c'est que quand on voit les premiers films de Deville, bon, ceux que vous n'avez pas joués comme Adorable Menteuse ou Ce soir ou jamais, ou ceux que vous avez tournés comme L'appartement des filles ou à cause d'une femme, c'est qu'en fait, il semble avoir capté l'essence de la nouvelle vague, alors qu'il ne fait pas partie de la nouvelle vague, mais le goût des jolies femmes, d'un dialogue raffiné, etc.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, Romère et Jean Douchet adoraient les premiers films de Deville.
C'est
très étrange. Et aujourd'hui, il n'est pas du tout considéré comme faisant partie de ce mouvement, alors qu'il, d'une certaine façon, il avait 30 ans, et il y avait une sorte de jeunesse dans ses films, de faire de jolies choses à de jolies femmes, comme disait Auriol. Le cinéma, c'est faire de jolies choses à de jolies femmes.
Mais c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a dans cette école-là, en fait, je viens de regarder le coffret des Césars longuement, donc il y a deux personnes qui sont un petit peu dans la même famille que Deville. C'est ce metteur en scène qui s'appelle Mouret.
Emmanuel Mouret.
Et Desplechin,
oui. Alors, vous avez aussi tourné, il faut le dire, dans des très grands succès populaires. Milady dans Les Trois Mousquetaires. Vous avez joué dans Fantomas. Vous avez là des films qui ont eu des millions de spectateurs, avec des metteurs en scène moins réputés comme André Unebelle ou Bernard Bordery. Mais en même temps, ça vous faisait quoi d'un seul coup de vous retrouver plongé dans des... Non pas des blockbusters, mais dans des best-sellers.
Mais j'étais ravie quand il m'a proposé Fantomas. J'étais ravie parce que j'ai toujours eu une passion pour De Funès. Jean Marais, je le connaissais depuis l'époque de Future Vedette, donc j'étais très à l'aise avec lui. Je râlais juste un petit peu quand je lisais les films parce que je disais à André Unebelle, mais quand même, j'aimerais bien que tu me donnes des scènes à jouer parce que là, j'ai pas grand-chose à faire. Et il me dit, mais écoute, Mylène, le film, il est très bien calibré. Il y a le jeune premier, il y a la jeune première et il y a le comique. Et ce sont des archétypes et c'est très bien comme ça. Et le film est construit comme ça. Et quand je revois le film, en particulier le premier, c'est quand même, ça passe tout à fait bien. Et il essayait de faire une espèce de James Bond à la française. On voit ça très bien dans les décors. Et c'est furieusement kitsch. Et c'est adorable. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Fantomas. Beaucoup. Je suis ravie d'avoir participé. Maintenant, l'autre film, Les Trois Mousquetaires, ça, c'est ma passion. Parce que d'abord, j'ai toujours été fanatique d'Alexandre Dumas. J'en ai lu énormément. Et je suis toujours en train de me dire qu'il serait temps un jour qu'on fasse vraiment Les Trois Mousquetaires tel qu'il l'a écrit. Parce que toutes les versions que j'ai vues, elles sont très sympathiques. Mais il n'y en a pas une qui se rapproche de ce qu'est véritablement Les Trois Mousquetaires.
Ça, même Richard Lester.
Oh oui, même Richard Lester. Ah oui, il y a des scènes dans le livre tout à fait jouissives, magnifiques, qui n'ont pas été tournées. Et ce film-là, ces deux films-là, j'étais en contrat avec la famille Bordery pour faire deux films. Après Les Sorcières de Salem. Et il ne m'avait rien proposé. Et je vois arriver dans le film français, projet, Les Trois Mousquetaires. Je fonce chez Bordery et je dis, je veux le faire. Il me dit, mais non, chère Mylène, en fait, il n'en est pas question. Vous êtes beaucoup trop jeune. On va prendre une fille. J'avais 35 ans, mais pas vous. J'avais quoi, 23, 24 à ce moment-là, je ne sais plus. Et je dis, mais moi, je veux le faire. Et je reviens à la charge, et je les enquiquine, et je reviens. Et puis, j'ai eu une idée de génie. Je dis, mais écoutez, je suis en contrat avec vous pour 2 francs 6 sous, là. Vous devez encore me donner 2 films. Eh ben, débarrassez-vous de moi en me donnant ce rôle-là. Et là, ils ont réfléchi, hein. Ils ont dit, ben oui, c'est pas bête, et ça nous fait une belle économie. Et donc, j'ai pu faire les 3 mousquetaires, et je suis ravie, effectivement. Mais Jean Becker a toujours dit, les 3 mousquetaires, ce sont des gens jeunes, ce sont pas des gens vieux. Moi, j'adore la version avec Gene Kelly, je la trouve absolument jouissive. Mais c'est vrai que Gene Kelly, c'était pas un poulet de l'année, quoi. Et Jean Becker a essayé de monter un 3 mousquetaires avec que des gens qui avaient l'âge du rôle, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans. Il a pas réussi à le monter, parce qu'à ce moment-là, il fallait prendre des inconnus, et les producteurs voulaient pas d'inconnus.
Alors, vous avez, avec Camping, vous renouez avec ce grand succès populaire.
Oui, mais on ne sait pas quand on le fait. On n'en sait rien quand on le fait, quand on le tourne. Je suis allée faire Madame Pic parce que j'avais envie de faire Madame Pic. C'était amusant, j'aime bien Claude Brasseur. C'était une bonne petite comédie. Qui pouvait me dire qu'on allait faire un succès aussi considérable? Voilà, donc on en a fait un, puis on en a fait 2, puis maintenant on a fait le 3e, qui est, à mon avis, le meilleur, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le 3.
Comment c'est la promo, là?
Non, je fais pas la promo. Je fais que quand j'ai reçu les premiers scripts, j'ai envoyé des lettres de 10 pages à Fabien en disant, fais attention, c'est pas ça, parce que ce qu'il y a de touchant dans le premier Camping, c'est ce mélange de caricature et d'humanité, et tu dois pas perdre ce truc-là. Et c'est vrai qu'il m'a écouté, c'est vrai, et c'est vrai qu'il a fait 1 version, 2 versions, 3 versions, 4 versions, et on a tourné la 4e version, et je pense qu'elle est très bonne. On va voir, hein, on peut se planter.
Mylène de Mongeau, quand on revient sur vos débuts, quel rôle ça a eu pour vous d'être au cours Simon? Vous avez été d'ailleurs avec des Jean-Pierre Cassel, des tas de gens qui sont devenus très connus aussi.
Et Guy Bedos.
Qu'est-ce que ça vous a aidé pour votre travail futur?
Ah non, pas du tout. Alors, moi, je voulais être pianiste d'abord. Ça, c'est ma première vocation. C'était le piano. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire des photos. Donc, j'ai fait du mannequinat, mais pas du mannequinat mannequin, parce que j'ai toujours été trop ronde. Mais c'était des photos. Je faisais des photos de beauté. C'est d'ailleurs comme ça que Raymond Rouleau m'a découverte. C'est en voyant Je mets et Chanyou et tous ces trucs-là où j'avais un poudrier. Et mes copines de l'époque m'ont traînée au cours Simon, et j'ai été pétrie de timidité, j'étais absolument affolée. René Simon a été adorable. Je suis arrivée, j'ai dit, vous savez, moi j'ai pas de sous pour me payer des cours de théâtre. Il m'a dit, mais ça fait rien, toi tu as un emploi de coquette, tu es Célimène, donc Célimène peut s'asseoir dans le fond et je ne te ferai pas payer. Donc voilà, j'étais assise dans le fond et j'étais éblouie, parce que René Simon, c'était lui, le spectacle, à lui tout seul. Il montait sur scène, et pendant 1h30, devant les élèves enchantés, il nous démontrait, il nous faisait Molière, il nous faisait Marivaux, il nous faisait, et on était époustouflés. Et je me souviens aussi, Jehan Rictus, les poèmes de Rictus, qui a été formidable. Non, c'est un personnage étonnant. Et c'est vrai, on était toute une bande de jeunes. Il y avait la future baronne de Rothschild, il y avait qui s'appelait Nadine Tally à l'époque, je me demande si Dany Saval n'était pas avec nous.
Et ça n'a pas eu une influence directe sur votre travail futur?
Pas du tout, là j'ai passé un bon moment, c'est tout.
Alors, à un moment dans votre vie, vous faites quelque chose qui est assez étonnant, Mylène de Mongeau, c'est-à-dire que vous épousez votre deuxième mari, Marc Simenon, et vous mettez en retrait pratiquement pour vous consacrer à votre époux, et pour vous consacrer à votre vie privée, et vous mettre un écart, ce qui est inimaginable de la part d'un homme. C'est-à-dire que c'est comme Jeanne Campion qui s'arrête pendant 4 ou 5 ans de tournée pour s'occuper de l'éducation de sa fille parce qu'elle est adolescente, c'est un moment difficile. On n'imagine pas Martin Scorsese disant j'ai un fils de 12 ans, j'arrête 5 ans de tournée pour élever mon fils, pour m'occuper de lui. C'est inimaginable. Donc c'est tout de même un choix que vous avez fait qui est assez rare.
D'abord, c'est le grand amour de ma vie, c'est une chose. Après, comme je l'aimais tellement, j'avais tellement envie qu'il réussisse dans ce métier, parce que je le sentais fragile, parce que c'est très très dur pour un être humain d'être le fils d'eux, et il en souffrait énormément. Et je me suis mis vraiment à son service pour essayer de le tirer vers le haut, parce que je voulais qu'il ait au moins une fois dans sa vie le succès que j'ai eu. Ça m'aurait fait plaisir. Et c'est très très bizarre, c'est que quand il était sur un plateau, quand il dirigeait les gens. Par exemple, il a fait un film, il a fait deux films que j'aime énormément. Il a fait Par le sang des autres, où il y a une distribution absolument exceptionnelle. Bernard Blier, Francis Blanche, Vanel, enfin, il y a 8 comédiens époustouflants et il a fait une mise en scène très très bonne. Et après, il a fait Signé Furax. Donc, il était, qui est aussi un film qui est devenu un film culte. Maintenant, Signé Furax, on le trouve pas et quand on le trouve, qu'il vaut 100 euros. Mais il était heureux sur un plateau et il était incapable, après, de se battre pour s'imposer. Il n'y avait rien à faire. Il aimait mieux, une fois fini, une fois son montage fini, partir avec les copains. Il aimait les copains, c'est exactement, ça me fait penser, je ris en voyant. Vous avez vu ce film qui s'appelle Mon Roi ? Bon, eh ben, vous avez un type qui adore la fille, hein, mais les copains, c'est sacré. Et à un moment donné, la fille, eh ben, elle est pesante parce qu'elle vous dit « je veux ci, je veux ça, je voudrais ci, je voudrais ça, etc. » Et le mec, il fuit, il en a marre. Voilà. Et ça, on a quand même tenu 35 ans avec tous ces conflits. Mais on a eu des conflits, des belles bagarres, ça c'est sûr.
Alors je voudrais terminer, on pourrait vous écouter des heures, mais je voudrais terminer sur une autre rencontre importante pour vous. Alors dans la troisième vie de Mylène de Mongeau, c'est maintenant, vous êtes revenu depuis pas mal d'années au cinéma, et la rencontre avec un metteur en scène qui est venu à ces micros, Iner Salem, metteur en scène kurde, qui a fait deux films avec vous, Si tu meurs, je te tue, et Les Toits de Paris. Et qui était, je crois, une très belle rencontre pour vous, Les Toits de Paris, où vous êtes amoureuse d'un vieux monsieur joué par Michel Piccoli, oui, qui vit dans une chambre au sixième, etc.
Il meurt dans une chambre au sixième, en plus. C'est un film sur la mort qui est... Moi, j'ai une passion pour Iner Salem, et en même temps, il me fait hurler de rire, parce que, bon, j'ai une passion, une affection profonde, mais c'est quelqu'un qui est impénétrable, et il vient et il vous dit, voilà, je vais faire un film sur toi. Ce film, ça sera une logeuse qui prend des étudiants kurdes et qui couche avec eux. Puis il se passe ceci, cela. Et puis il commence à tourner. Et au fur et à mesure du film, avec les rencontres, avec les acteurs, avec ce qui se passe dans la rue, avec ci, avec ça, on voit petit à petit le film se transformer et ne plus rien à voir avec... avec ce qui était à la base, il est époustouflant. Et en même temps, il a tellement de talent que vous le suivez dans son délire et dans ses histoires. Je l'aime infiniment. Là, il est Si tu meurs, je te tue. Il a été impressionné par Goldshifteh, sa beauté, son truc. Et ça a transformé l'histoire. C'était plus mon histoire, c'était la sienne. Et je peux même pas lui en vouloir parce que je suivais très bien ce qu'il avait envie de faire. Je l'adore. Voilà.
Avec qui vous aimeriez tourner
aujourd'hui? Bon, il y a plein de gens quand même. Alors, moi j'ai bien aimé le film de Rapneau. J'aimerais bien tourner un jour avec Rapneau. J'aime un peu la vieille école. Hein. J'aime bien les films bien faits. Et puis non, là je vais tourner avec une fille, une bretonne. C'est son premier film. Elle s'appelle Vanessa Le Reste. Elle a fait un très très joli scénario sur. Qui s'appelle Lady Solange. Lady Solange, c'est moi. C'est une femme qui a un début d'Alzheimer et qui vit dans une maison de retraite, mais qui vit dans ses fantasmes. Et dans ses fantasmes, elle a envie encore, je dirais pas d'amour sentimental. Elle a envie de, foi, on peut le dire carrément, elle a envie de jouir encore une fois dans sa vie. Et elle, pour l'instant, là où elle est enfermée, il n'y a que l'imaginaire avec lequel elle peut se contenter. Mais un jour arrive un type qui est aveugle, donc elle est contente parce qu'un aveugle ne verra pas qu'elle a vieilli, qu'elle a des rides. Et commence toute une histoire d'amour avec ce gars-là. Enfin, je vous raconte pas l'histoire. C'est en même temps très drôle et en même temps très émouvant. C'est très bien. Il y aura François Morel, il y aura Jean-Claude Dreyfus, il y aura Bernard Ménez, il y aura Frédéric Bell, il y aura Liliane Rovert. Je crois qu'on, si elle réussit ce qu'elle a l'ambition de faire, et moi je mettrai tout mon savoir à sa disposition, on va essayer de faire un joli film.
Merci beaucoup, Mylène de Mongeau. Voilà, sur cette note tournée vers le futur. Et donc, vos livres, Tiroir secret au Préau-Clair, Mémoire de cinéma hors collection. Et puis, tout récemment, chez Flammarion, Mes monstres sacrés, souvenirs et portraits. Et puis, avec une préface de Dominique Besnéard, évidemment, l'agent et le producteur des stars. Et puis, en DVD, chez Rimini, Le Cavalier Noir, donc ce film de Roy Ward Baker, avec vous-même, et puis Dirk Bogart et John Mills. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil, ce sont deux films américains des années 70-80, de grands cinéastes de l'époque, William Friedkin et Brian De Palma, qui sont réédités avec énormément de suppléments extrêmement riches. Sorcerer, d'abord, qui s'appelait Le Convoi de la Peur, qui est un remake du film de Henri-Georges Clouzot, Le Salaire de la Peur, qui est un film de 1977, produit par Wildside, et d'autre part chez Carlotta, Body Double, qui est lui de 1984, qui est l'ultime opus hitchcockien de Brian De Palma, voilà, qui est un film qui n'avait pas eu un accueil très, très positif, mais qui finalement mérite la révision. Et pour en parler, j'ai donc invité Entebbe. Donc ces deux films qui sont séparés par 7 années, avec effectivement deux cinéastes phares. Ce n'est pas ni Scorsese, ni Coppola des années 70, ni même Terrence Malick. Mais enfin, ce sont tout de même des cinéastes qui avaient marqué leur époque.
Oui, et alors, il y a peut-être une chose qui pourrait être intéressante au sujet de ces deux films, c'est la notion aujourd'hui qu'on a, de ce qu'on appelle les films cultes. Parce que maintenant, il suffit qu'un film sorte, et puis on dit tout de suite, c'est un film culte. Mais le vrai film culte, c'est celui qui a été mal compris ou incompris lors de sa première sortie, et qui, au fil des années, va se forger une légende, va être reconnu par les cinéphiles, et va ressortir pour s'imposer comme un classique. Et c'est un peu le cas de ces deux films-là. Alors, Sorcerer, comme vous l'avez dit, c'est un remake, ou plutôt c'est une deuxième adaptation du roman qui avait servi de base au Salaire de la Peur.
Très différent.
Très différent, notamment par son approche des quatre personnages.
Ceux il y en avait deux dans le Salaire de la Peur.
Oui, qui vont convoyer ces camions chargés de nitroglycérine au cœur de la jungle, avec le danger à chaque seconde que un petit remous du camion puisse faire exploser le tout. Eh bien, ce qui intéresse finalement Friedkin, c'est de parler d'une part de la notion de destin, à savoir que on a quatre personnages qui ne maîtrisent pas leur destin alors qu'ils pensent le faire, et d'autre part de faire une sorte de métaphore du monde contemporain dans les années 70, avec quatre personnages peu reluisants d'ailleurs.
De quatre pays différents.
De quatre pays différents qui sont chacun criminels ou marginal ou responsables de forfaits très condamnables chacun dans leur pays et qui vont se révéler d'abord très de façon très adverse et très antagoniste et compétitive, mais ensuite solidaires pour travailler ensemble au cheminement de ce convoi. Et c'est un petit peu un message que Friedkin adresse au monde en disant on a quatre pays comme quatre puissances mondiales qui, pour éviter que la planète n'explose, sont obligés finalement de marcher ensemble et de signer une sorte d'accord, parce que sinon le monde va à sa perte. Alors, ce film a été déjà une sorte d'odyssée complètement incroyable qu'on compare souvent au tournage d'Apocalypse Now aussi, dans une autre jungle,
ou de Fitzcarraldo, à cause de l'Amérique du Sud.
À savoir, Friedkin embarque une équipe en République dominicaine, où la moitié de l'équipe est décimée par les maladies. Le tournage s'étale pendant des mois, avec un énorme budget qui est englouti. Mais pour aboutir à un film d'un réalisme dans le suspense absolument crispant. C'est-à-dire que c'est un film qui commence assez doucement avec la description des personnages, puis de leur exil en Amérique du Sud. Et puis à partir du moment où la caméra s'embarque avec eux sur les camions, c'est impossible de relâcher l'attention. Mais ce film, moi, je me souviens de l'avoir vu quand il était sorti à sa première semaine d'exploitation aux États-Unis, à Hollywood, et j'étais quasiment seul dans la salle du Grauman Chinese Theater. Ce film a été une catastrophe commerciale et critique qui a failli mettre un terme à la carrière de Friedkin.
D'autant plus frappante que French Connection et L'Exorciste avaient été d'énormes succès commerciaux.
Oui, un succès foudroyant, qui d'ailleurs peut-être avait fait penser à Friedkin qu'il pouvait tout se permettre, et il estimait lui avoir fait l'un de ses meilleurs films, sinon son meilleur film, avec Sorcerer, qui a été, comme on le rappelait, un échec. Et comme il le rappelle lui-même, en conversant avec Nicolas Winding Refn dans un savoureux bonus assez long, d'ailleurs de plus d'une heure, où il parle ensemble de la sortie du film. Et je recommande aussi l'excellent supplément de Philippe Rouillet qui analyse par le menu les thèmes et la construction de Sorcerer.
Et un livret de 50 pages, tout de même, c'est pas rien, sur le tournage, sur l'histoire du tournage.
Avec de très belles photos de tournage.
Voilà. L'autre film, donc, c'est Body Doubles, donc ce film de Brian De Palma, dont on a dit un peu trop vite qu'il était au fond un imitateur d'Hitchcock. C'est un peu vrai dans ce film.
Oui, et en même temps, c'est une sorte de synthèse et d'adieu à cette manière hitchcockienne. Et c'est l'ultime film sur le voyeurisme par De Palma. C'est d'ailleurs très bien expliqué par Samuel Blumenfeld dans l'un de ses suppléments, qui est l'un des meilleurs spécialistes en France de l'œuvre de De Palma. Je conseille aussi, pour aller vraiment dans au cœur de la méthode De Palma, de se plonger dans le témoignage exceptionnel que constitue un livre de 200 pages, écrit par une journaliste, Suzanne Dworkin, sortie à l'époque et jamais traduite en français, où elle raconte tout le tournage très minutieux et presque maniaque et obsessionnel de Palma, qui, comme à son habitude, fait à la fois mène un récit policier tout à fait diabolique, mais fait aussi le portrait d'une ville. C'est la première fois qu'il situe l'un de ses films à Los Angeles, et il va, un petit peu comme Hitchcock faisait aussi d'ailleurs, exploiter au maximum les décors naturels qu'il va trouver, et il va mélanger d'une façon très virtuose avec les décors de studio.
Et d'ailleurs, Brian De Palma, pour se rapprocher encore plus d'Hitchcock, a demandé à Melanie Griffith de jouer, qui est la fille de Tippi Hedren, qui était la vedette des Oiseaux et de Marnie.
Oui, alors le film avait même un peu fait scandale à l'époque, puisqu'il se déroule en partie dans les milieux du cinéma X, du cinéma porno, et Melanie Griffith remplace en fait une actrice qui avait été distribuée dans ce rôle-là, qui était une vraie actrice de porno, et ça avait fait pas mal de remous au sein du studio. Et il se trouve que quand De Palma a fait des essais avec elle, il s'est très bien entendu avec elle, il trouvait que finalement cette actrice de porno, dans les scènes qui sont supposées être sensuelles et éveiller le voyeurisme du personnage principal, faisait ça de manière complètement mécanique et totalement inintéressante pour lui. Et donc il l'a chargée plutôt de coacher Melanie Griffith lorsqu'elle a été distribuée dans ce rôle et qui livre l'une des prestations qui a fait d'elle une grande star. C'est-à-dire que le film a été étrié, notamment par la critique féministe à l'époque, très souvent, la seule rédemption que les critiques trouvaient dans le film, c'était justement cette interprétation de Melanie Griffith dans le rôle d'une actrice de film dit adulte, mais qui est peut-être le personnage le plus sensible et le plus sensé du film.
Alors, la caractéristique de la mise en scène de Palma, c'est quoi? C'est ces plans-séquences, c'est cette caméra un peu à la Scorsese, incroyablement mobile.
La caractéristique de Palma dans ce film-là, c'est de mélanger un petit peu toutes ces lubies habituelles. C'est-à-dire qu'on a à la fois des plans-séquences fluides, mais on a aussi des scènes très découpées où quelqu'un est en train d'observer quelqu'un qui observe encore quelqu'un d'autre, où on passe d'un point de vue à l'autre, puisque, en fait, ce qui intéresse De Palma, c'est la direction du spectateur. C'est-à-dire de manipuler le regard subjectif du spectateur pour qu'il se mette tour à tour à la place d'un personnage, puis d'un autre, et tout cela en le conduisant à chaque fois vers des leurres, puisque ce qu'on voit et ce qu'on croit n'est pas forcément ce qui advient.
Ce serait donc plutôt « eye double » que « body double ».
Oui, voilà. Mais si on analyse un petit peu trop le titre « body double », on révèle un petit peu aussi trop de la clé de l'énigme du film. Donc, voyez le film. « Body double », ce sont les doublures qui, dans les films érotiques, prêtent leur corps aux vedettes principales.
Merci beaucoup, Ntebin. Je rappelle ces deux titres « Sorcerer » donc de William Friedkin chez Wildside, avec une flopée de bonus, et Body Double, également avec une flopée aussi de bonus,
encore plus, mais...
chez Carlotta, deux superbes coffrets quasiment vraiment avec des livres à chaque fois. Donc c'était Projection Privée, une émission de Michel Simon, à la prise de son Pascal Bénard. Elle a été réalisée par Laetitia Coya et préparée par Sylvia Favre. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours, ainsi que tous les renseignements que vous voulez savoir sur cette émission sur le site franceculture.fr. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre de Perrine Kervran.